Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver, ravi d'être avec vous pour cette émission culte, cette émission anniversaire. Aujourd'hui c'est la centième, et oui, déjà la centième de Mon Paris Sport. Alors on a décidé de vous gâter, on retrouvera naturellement notre ami Stéphane Desenclos pour le point foot à partir donc de 20h05-20h10. On aura une interview du directeur du mondial de l'automobile hein, qui commencera la semaine prochaine, Serge Gachot, que nous sommes allés interviewer donc cette semaine dans ses bureaux du 2e arrondissement de Paris. Et puis on va parler d'un sport dont on n'avait pas encore parlé dans notre émission. On aime le faire, hein, c'est donc le curling. Bonsoir à mon invité Cédric Zac. Bonsoir Cédric.
Bonsoir.
D'être venu nous parler d'un sport pratiqué par le seul club en Ile-de-France, Viry-Châtillon.
Ouais, tout à fait. Nous, on est les seuls en Ile-de-France. On n'a pas trop de concurrence, du coup.
Oui.
Mais on est quand même content d'accueillir tous les gens qui veulent venir essayer et de braver la glace pour pousser la pierre de curling.
D'accord. Donc, on va essayer de découvrir. C'est la vocation aussi de cette émission. Donc, ce sport de l'intérieur. Alors, quand on parle de glace et de patin glace, fatalement, on parle de Vanessa, que je salue. Bonsoir, Vanessa. Ça va?
Bonsoir, Philippe. Bonsoir à tous.
Tu vois?
Très bien, ouais. Hein.
Donc,
ouais,
là, tu vas aller sur la glace aujourd'hui.
La glace,
hein.
C'est mon univers.
Voilà. C'est ça. Voilà. Et puis, il était sous le soleil de la Guadeloupe, il est rentré donc cette semaine. C'est notre ami Alexandre, ça va Alexandre?
Salut, ouais. Philippe, bon anniversaire à nous.
Oui, merci. T'es prêt pour le journal des sports, hein?
Je suis prêt.
Il y avait un beau week-end. Hein.
Gros week-end
de sport.
Ça fait plaisir,
hein.
Je vais pouvoir vous raconter tout à l'heure.
Très bien, ok. Allez, donc le curling, Cédric, d'abord, pourquoi le curling dans votre vie?
Eh ben, je pense que comme tous les curieux de ce sport, j'ai essayé, voilà. Ouais. Je me suis dit tiens, j'ai
vous
vu ça.
Vous êtes de Viry, non? Vous êtes de l'Essonne, de coin?
Même pas. En plus, alors oui, c'est que le club il a Viry-Châtillon, donc en Essonne, mais alors moi je suis du Val-de-Marne, je suis de Brie-sur-Marne.
D'accord. Ah oui, quand
donc,
même.
Donc c'est pas à côté.
Un bout de chemin quand même.
Donc ouais, faut être vaillant pour faire la route toutes les semaines et aller braver les bouchons surtout.
Bravo en tout cas.
Et donc ouais, non, bah comme tout le monde, je pense tous les curieux qui ont essayé, j'ai vu ça un jour au JO, je me suis dit ah quand même c'est curieux, faut essayer, ça a l'air super. Puis un jour j'ai vu un film au cinéma aussi qui s'appelle Les Rois du curling. Et du coup, il y a un film finlandais sur le curling, forcément, parce que c'est The Big Lebowski sur glace.
Ouais.
Et je me suis dit, il faut vraiment que j'aille essayer. Et du coup, depuis, bah voilà.
Vous avez cherché, vous êtes renseigné, vous avez vu qu'il y avait le seul club d'Île-de-France à Viry-Châtillon dans l'Essonne dans le 91. C'est quand même incroyable, un seul club en Île-de-France.
Ouais, aujourd'hui, on est le seul. Alors, il y a quelques décennies, hein, pourtant, il y avait quatre clubs.
Oui.
Avant, franchement, Paris avait vraiment sa place dans le curling français. Il y avait un club à Meudon, il y avait Paris-Boulogne, il y avait Charenton et donc historiquement aussi Viry. Viry, il existe depuis 40-45 ans à peu près, le club. Mais faute d'adhérents, les autres clubs ont fermé et de disponibilité de glace. Et seul le club de Viry perdure, quoi.
Oui. Et vous avez peut-être un petit peu bénéficié de l'effet hockey sur glace. Parce que dans une autre vie, j'ai travaillé tout près de Viry-Châtillon et de l'Essonne. Et à l'époque, il y avait une bonne équipe de hockey sur glace, donc peut-être que ça vous a aidé.
Ouais, peut-être. Bah, après, moi, je ne suis pas depuis si longtemps que ça.
Oui.
Hein, donc, moi, j'ai seulement commencé il y a une douzaine d'années. Il y a une douzaine d'années, mais ouais, dans les années 80,
j'étais
non, j'y étais pas encore.
Journaliste ou parisien, donc pour ça. Ouais.
Mais ouais, non, bah, y a toujours une bonne équipe de hockey à Viry. Mais c'est vrai que c'est dur. En fait, les clubs de curling, enfin de manière générale sur les glaces, ont du mal à trouver des créneaux parce que c'est les patinoires donnent les créneaux en priorité au patinage, à danse sur glace et au hockey sur glace. Donc c'est très dur justement de trouver des créneaux de glace pour faire du curling.
Et vous êtes combien aujourd'hui donc dans ce club?
Alors nous au club de Viry, on a à peu près une vingtaine en ce moment.
Oui.
Voilà, ça varie peu. Hein. Il y a des gens qui partent, des gens qui reviennent, donc on arrive à se maintenir à peu près ça. Et sur le territoire français par exemple, on n'est pas, c'est pas très nombreux. Hein. Ça reste un sport de niche. On est à peu près 350 licenciés.
350.
Ouais, donc c'est d'autres sports qui ont plus de licenciés.
Non, mais c'est sûr. Et je suppose que tous ces pratiquants et pratiquantes, ils sont comme vous, ils viennent de beaucoup plus loin que l'Essonne.
Nous, au club, on est quelques-uns. Alors, C'est sûr que la distance fait que ça peut mettre un frein, hein, du coup, à pratiquer. Donc, venir toutes les semaines, du coup, ça peut être compliqué.
Bon, ça va, le train, il n'est pas loin.
Mais non, parce que ça, la gare horaire est juste en face de la patinoire de Verrichetti. Ouais, donc, ça, c'est pratique.
Ouais, ça va, ouais.
Mais bon, l'entraînement, c'est le mercredi de 20h jusqu'à 23h. Donc, si on n'est pas véhiculé, ça peut être compliqué de s'y rendre si on n'habite pas sur place. Mmh. Donc, on est quelques-uns de Paris, moi, du Val-de-Marne. Mais sinon, principalement, c'est des gens de l'Essonne qui y vont quand même.
Ouais. Quel tranche d'âge?
Bon, tous les âges, on a des jeunes, ça commence à des ados, beaucoup d'adultes, et puis mais on peut jouer de 7 à 77 ans, il n'y a pas de souci. Pour les enfants, on a des demi-pierres, par exemple, parce qu'une pierre, ça pèse 20 kilos, et on a des pierres un peu moins lourdes qui font une dizaine de kilos pour les enfants.
Ouais. Alors, on en parlait hors antenne, avant l'émission, vous me disiez que les années de Jeux Olympiques d'hiver, il y avait un afflux de pratiquants et pratiquantes, même dans un sport comme vous qui n'a pas ramené de médaille.
Ouais, bah c'est la curiosité, hein. Les gens ils voient ça à la télé, ils disent oh, faut que j'aille essayer, c'est génial et tout. Donc on est content, on accueille. Bon, malheureusement, c'est pas forcément des gens qui restent pour jouer tout au long de l'année. Ils viennent essayer une fois, deux fois, puis on les revoit plus. Donc je pense encore une fois, c'est la distance du club, l'éloignement de Paris qui peut être un frein à cause de ça.
Est-ce que vous recrutez encore à l'heure actuelle? Est-ce que ce soir, certains et certaines ont la vocation après notre émission? Ils peuvent venir vous rejoindre?
Ah, bah complètement, hein. Nous on accueille toute l'année des gens qui veulent venir essayer. C'est convivial. Hein,
Même essayer, tiens, on va envoyer Vanessa et puis Alexandre.
On organise une initiation le mercredi 11 décembre, ouverte à tous. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à venir s'inscrire. Hein, on nous trouve hyper facilement sur le net.
Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils passent par votre site internet, ils vous envoient un petit mot ou ils viennent comme ça
Non, faut quand même qu'on sache à l'avance parce qu'il y a toujours des histoires d'assurance. Donc, on est obligé de prendre un ice pass auprès de la Fédé pour dire qu'on a des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, soit on nous trouve sur la page Facebook du club, on est hyper réactif ou via le site. L'avantage, c'est comme on est laissé en Ile-de-France, on tape Paris Curling dans un moteur de recherche, on nous trouve tout de suite, il n'y a pas de souci.
C'est exactement ce que j'ai fait. Tout de suite, je suis tombé sur. Avec un peu de recherche, j'ai trouvé le numéro de téléphone. Voilà. Donc, alors, justement, on vient. On s'initie et après, si on reste, on prend une licence, ça se passe comment?
Enfin, avant de signer, on a le droit d'essayer quand même,
Donc,
on essaye. Après, ça, en plus, nous, on fournit tout le matériel. Donc, le matériel, c'est pas très compliqué. Hein. C'est juste une paire de chaussures, un balai, un survêt et elle là, quoi.
D'accord, ok. C'est combien pour une licence?
Licence à l'année, c'est 100 euros.
100 euros.
100 euros, c'est pas excessif. Et on fournit tout le matériel. On a droit à deux entraînements par semaine. C'est-à-dire que nous, on a le créneau du mercredi soir, donc à 20h, et le samedi matin de 10h à midi, quoi.
D'accord. Ok, on parlera après des différentes compétitions. Justement, vous disiez que vous étiez un petit peu un fond de tiroir au sein de la Fédération française.
C'est que c'est compliqué parce qu'on n'est pas, prioritaire, entre guillemets, mais on n'est pas, dire, le sport le plus mis en avant. La Fédé, elle gère avant tout, surtout les sports émergents sur la scène internationale.
Oui, c'est totalement vrai, ça.
Ouais. Bah, le hockey, eux, ils ont leur fédé à eux. Donc
parce qu'en fait, il y a quelques années, à peu près une vingtaine d'années, la Fédération française. Au sein de la Fédération française des sports de glace, il y avait le hockey et ils se sont séparés. Et d'ailleurs, le siège est à Évry.
C'est pas bien, moi. Donc, c'est un handicap pour vous, ça. Un petit peu un. Parce que c'est vrai que, en plus, quand on suit le curling, c'est un sport dont on se moque assez souvent, à tort d'ailleurs.
Parce que mine de rien, c'est physique. Hein, quand on fait un match, ça dure 2 heures, un match, on est rincé à la fin quand même. Mais c'est pas compliqué. Hein, vous regardez les pays qui sont dans le top niveau mondial du curling, c'est parce qu'il y a des licenciés, il y a de l'investissement, il y a des coachs internationaux. Donc forcément, ça fait connaître le sport et donc ça attire du monde.
Oui. Alexandre, tu m'as dit que c'est un sport qui te plaisait, toi.
Ouais, moi c'est un sport
que j'aime
bien.
Justement,
en fait, c'est parce que c'est des sports. Ce que j'aime bien aussi avec l'émission, c'est qu'on reçoit des sports dont on n'a pas l'habitude forcément.
C'est le but, c'est la vocation.
Et
c'est la centième, mais puis il y en aura d'autres.
Voilà, c'est ça. Et du coup, de voir des sports comme le curling où j'ai entendu 350 licenciés, ça me semble tellement peu. Un seul club en Ile-de-France où il y a 12 millions d'habitants.
Juste de comparaison, par exemple, la Suisse, la taille du pays par rapport à la France, ils sont à peu près 10 000 licenciés au curling. Et il y a 50 halles de curling. Donc des halles, c'est des vraies infrastructures pour le curling. Nous, on fait ça sur des patinoires. Donc on n'a aucune halle en France. Voilà, à titre de comparaison, c'est comme si vous avez une équipe de foot qui s'entraînait sur un champ de patates.
C'est-à-dire qu'Aviry, vous partagez uniquement avec le hockey sur glace.
On partage,
ouais. Il n'y a pas de patinage artistique.
Si, si, bah, si, 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 au club de, club de Viry, il y a du hockey,
si,
il y a du patinage.
Il y a toutes les disciplines, ouais. Et ouais. Juste petite rectification, le siège de la Fédération française de hockey sur glace est à Cergy, pardon, excusez-moi.
Ah, okay. Oui, c'est
je voulais juste faire la rectif, voilà. Ouais. Voilà, ouais. Très bien.
Oui, ils l'ont intégré au niveau de l'Arena Ice.
Exactement, l'Arena Ice qui est une superbe patinoire qui accueillera très certainement les championnats du monde de hockey la saison prochaine, l'année prochaine, donc cette saison.
Mais
donc,
tout à fait, il y a des projets, toi, l'Arena Ice qui s'est créé par exemple, mais ça c'est le cas, tu vois, ils auraient pu, une concertation pour créer des pistes de curling parallèles, toi, profiter d'infrastructures.
Il y a deux patinoires, tout à fait. Ouais. C'est ça.
Ouais. Et donc, vous êtes obligé de partager, ça se passe comment alors?
Bah, on a nos créneaux à nous, donc on s'entraîne après les autres. Une fois qu'on passe après le patinage ou le hockey, il y a le glacier qui passe la surfaceuse pour remettre la glace à zéro, parce que nous, il faut qu'il n'y ait aucune marque, aucune rayure sur la glace, sinon ça fausse la trajectoire de la pierre. Quoi.
Alors, on va en parler justement, avant de parler des règles, on va parler de l'équipement, Alors moi, ce que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que sur la paire de chaussures, il y en a une où on glisse et l'autre où on ne glisse pas.
Ouais, tout à fait. Ouais. Vous avez semelle qui glisse, donc une semelle en téflon.
Laquelle? Gauche, alors, droite, ou c'est au choix?
Ça dépend justement de nous, en fait. Moi, je suis gaucher, donc c'est l'autre pied, du coup, je glisse. Voilà.
D'accord, ok.
Donc, c'est comme au surf, quoi, si vous êtes régulier ou goofy, en fait. Voilà.
D'accord, ok. Donc, mais ça... Ça se trouve pas facilement.
Et du coup, on pousse avec l'autre pied, donc c'est une semelle qui adhère, et du coup, c'est comme si on faisait de la trottinette sur la glace. Quoi.
Ouais. Alors, quand on fait une initiation, fatalement, on vous délivre une paire de chaussures.
Alors, nous, comme on joue plus régulièrement, effectivement, on a des chaussures qu'on achète dans des magasins spécialisés. Et sinon, pour les gens qui viennent tester ou les gens qui commencent, on a des sursemelles avec des antéflons et on a juste à mettre des sursemelles. Donc, c'est-à-dire que même si vous venez avec une paire de baskets, vous pouvez quand même essayer, il n'y a pas de souci.
Oui. Alors, il y a les magasins spécialisés. On ne peut pas les trouver dans des grands magasins qu'on connaît bien.
Non,
hein. C'est pas possible. Ouais.
Je vous confirme, on ne trouve pas ça. Il y a des magasins spécialisés en Île de France. Il y en a un à Anières, je sais pas s'ils vendent, ils sont sport de glace, mais je sais pas s'ils vendent, non. Donc c'est vous qui nous allez nous dire.
Oui, c'est vrai que...
Non, il y a en France, il y a un shop qui est dans le Doubs où on peut acheter qui vend du matériel. Sinon
heureusement qu'il y a internet maintenant.
Sinon Suisse ou l'Allemagne où on peut venir importer du Canada, mais ça coûte du cher, mais en Europe on en trouve en Suisse, vu que voilà, c'est un sport qui est roi, donc il y a plus de boutiques.
Il faut pas se tromper de pointure, de dimension, de taille, parce que sinon faut tout renvoyer. Hein.
Ouais, ça va, ils sont plutôt sympas sur les renvois de colis quand on commande des chaussures. Donc ça et son balai, voilà, moi j'ai mon balai.
Bon, justement, on va en parler parce que le balai, c'est mythique.
Ah bah ça fait partie du curling, quoi.
Ouais. Et le balai, on peut le trouver où? C'est à la charge du club, ça se passe comment?
Oui, bon, les gens qui viennent essayer, on leur prête des balais, il n'y a pas de souci. Pour la première saison, on a des balais de stock. Et après, si on veut se perfectionner, on peut avoir notre balai à nous. Ça, c'est mieux.
Et puis... quelle particularité ils ont, ces balais?
Ah bah, ça n'a pas l'air comme ça, mais c'est assez technique, un balai. Déjà, ils sont hyper légers. Ils ont un tube en carbone pour que ce soit souple et rigide à la fois. Et la brosse, c'est un tissu synthétique.
Hein. Tu prends un balai chez toi là, pour nettoyer. Tu prends un balai en carbone. Non, je blague.
Si vous regardez sur des photos ou des tableaux d'histoire du curling, au début, ils avaient vraiment des balais à poil, hein, pour le coup.
Oui.
C'était pour enlever le givre sur la glace.
En préparant l'émission, je sais, je l'ai lu, ça. Ouais. Et donc, carbone, et puis les petits poils du balai, c'est quoi?
Alors, il n'y a pas de poils, justement. C'est un revêtement synthétique, en fait, plat, qui est juste là, du coup, pour faire de la friction quand on balaye, quoi, pour chauffer la glace. Voilà.
Et ces balais, ils durent une saison ou ça peut être plus long ou on les abîme facilement ou...
c'est la brosse, on change juste le revêtement de la brosse, en fait, où on fait une saison. Moi, j'en ai une pour l'entraînement et une pour les compétitions.
Et c'est pareil, il faut le trouver à la taille du sportif ou de la sportive, le balai.
Non, ça va, c'est plutôt standard, ça, pour
d'accord,
tout le monde.
C'est standard, ouais. Et donc, il y a ça coûte combien?
Un balai, 150 euros en moyenne entrée de gamme.
Ah, quand même.
Ah oui. Bon, après, une fois qu'on l'a, généralement, il fait plusieurs années.
Oui, c'est ça. Donc, il y a le balai, la paire de chaussures, on a dit, donc avec un côté glissant et l'autre non glissant. Et l'équipement, alors?
Et c'est tout. Et
un pantalon
bien sûr,
classique.
Voilà, c'est ça, tout à fait. Un pantalon de jogging. Du coup, il n'y a pas de souci. Ouais. Et la veste du club, et voilà, si on est adhérent au club.
Et si on tombe, il n'y a pas de problème, quoi. Si on tombe sur la glace.
Faut faire attention quand même. Ouais, la glace, c'est toujours plus dur quand même, quand on tombe généralement.
Je vous confirme.
Ouais. Donc, ouais.
Donc du coup, il n'y a pas besoin d'être un très grand patineur pour faire ce sport.
Ben, pas du tout, parce que contrairement à ce que les gens pensent, on n'est pas sur des patins à glace. Oui, donc si ça. On n'est pas à l'aise sur patins, il n'y a aucun souci. Hein. Nous, on est sur des semelles plates, donc voilà. Au contraire, on aurait des patins, ce serait embêtant, parce que du coup, c'est-à-dire qu'on abîmerait la glace, en fait. Et du coup, la pierre pourrait mal glisser.
Oui, la seule chose, c'est de ne pas venir.
La position, ce ne serait pas très pratique avec les lames. Hein.
Du tout. Surtout pour balayer, on a une position quand même, on doit se pencher devant la pierre. Donc,
ça se travaille justement.
Le balayage, absolument, ça se travaille. Ouais. Donc, on a des techniques, du coup, on apprend vraiment à, plutôt que de forcer, à appliquer le poids de son corps sur son balai, justement, pour aider, du coup, à la friction et créer la petite compagnie.
On parlait des initiations. Faut pas y aller, effectivement, avec des paires de chaussures lambda, sinon c'est râpé. Hein.
Ah, ça, c'est sûr qu'il faut plutôt aller avec une paire soit très solide ou à laquelle on tient pas forcément.
Paire,
voilà.
Tu viens pas avec tes mocassins ou ta paire de tennis.
Mais en tout cas, 11 décembre, j'ai noté dans mon agenda déjà.
Il faut pas venir en jeans non plus. Parce que souvent, les gens qui viennent, ils ont l'impression que c'est un peu détente au curling. Hein. Donc je dis toujours, mais ne venez pas en jeans. Il y a même des gens qui viennent en jeans.
Cette image,
quand on glisse, quand même, c'est une position qui est assez. On fait une fente sur la glace quand même. Ça demande quand même pas mal de souplesse.
En survêtement, où il y a des. En jogging, il y a des pantalons rembourrés qu'on peut éventuellement.
Pas besoin d'être rembourré.
Non. Ça va. Et donc pas de protection parce que si on tombe sur la glace.
Alors un casque pour les gens qui ont peur surtout, c'est sûr que si on tombe, qu'on se fait mal à la tête, c'est, on met des casques. Ceux qui veulent, ils peuvent mettre un casque de protection.
D'accord. Des gants, non aussi également ou même pas.
Non. D'accord. Et pareil, les gens ils viennent avec beaucoup de couches sur le dos. Forcément, c'est une patinoire, on se dit qu'on a froid. Mais au bout d'un moment, dès qu'on a balayé forcément. 2-3 fois, on finit en t-shirt en fait parce qu'on a très vite chaud.
Vous finissez très vite par ne pas du tout avoir froid.
Alors, quelles sont les règles de ce sport ?
Alors, bon, c'est.
Moi, je les ai lues. Hein. C'est pas
hyper compliqué. Il y a des petites subtilités, mais voilà quoi. Donc, on joue donc soit 4 contre 4 ou 2 contre 2. Ça existe aussi. Il y a du double mix où ça joue donc 2 contre 2.
Donc, on va déjà dire que ça n'est qu'un sport d'équipe. Ça peut pas être un sport individuel.
Tout à fait, ouais.
Il peut pas y avoir compétition individuelle.
Non.
D'accord. Ouais.
Donc 4 contre 4, on a 8 pierres par équipe. Donc du coup, 16 pierres en tout. Donc les pierres font à peu près une vingtaine de kilos.
Alors je vous coupe, les pierres, c'est aussi à la charge des clubs.
Oui, tout à fait, ouais, c'est fourni par les clubs. Parce que bon, en plus, fournir les pierres, ce serait compliqué. Et venir avec ses pierres à chaque fois dans les poches.
Oui. Donc ça, et ça, c'est facile pour un club aussi
ça peut être. Il y a tout à fait, c'est un frein pour la création d'un club, tout à fait. Parce qu'un jeu de pierres, quand même, donc c'est plusieurs, si je dis pas de bêtises, ça coûte entre 5 et 8 000 euros pour un jeu de 16 pierres. C'est des pierres spéciales qui viennent d'Irlande, d'Écosse, du coup, je veux dire, pardon.
D'Écosse, elles sont fabriquées.
Tout à fait, elles sont prélevées, en fait. C'est un granit spécial qui vient d'Écosse parce qu'il est costaud, il a une telle densité qu'il ne casse pas au choc, en fait.
Ouais. Donc, ça, c'est un budget pour les clubs, quand même.
Oui, complètement. Donc, un club qui commence, déjà, il faut acheter un jeu de pierre. Donc, on en trouve d'occasion, heureusement.
Et ça dure, c'est comme le balai, ça dure quand même
Ça, par contre, un jeu de pierre, il dure. Et il n'y a pas de souci. Hein. Tant que le club existe, je crois que le jeu de pierre, il suivra la durée du club. Mm-hmm. Celles qu'on a au club, elles sont là depuis plusieurs décennies. Même.
D'accord, ok. Donc, on jette la pierre.
Chacun son tour, chaque équipe jette une pierre. Mm-hmm. Du coup, donc deux pierres par joueur. Donc, un joueur jette une pierre. Les deux autres joueurs balayent la pierre qui vient d'être jetée. Mm-hmm. Et le quatrième joueur, qui est le capitaine de l'équipe, il est à l'autre bout de la piste. La piste fait 40 mètres. Et c'est lui qui donne les indications de jeu. Donc, la vitesse qu'il veut, la trajectoire et si on balaye ou pas. Voilà.
D'accord,
après, il y a de la communication dans tout ça.
Oui.
Donc, les balayeurs, ils estiment une vitesse, ils la répètent du coup au capitaine qui corrige si ce n'est pas la bonne vitesse. Et, voilà.
Et le balayeur, c'est un truc à part, c'est une spécialité à part, c'est un métier sportif à part, ou alors on peut être interchangeable.
Non, tout, vu que ça change en fait. Chaque joueur jette ses deux pierres et après il vient balayeur.
D'accord.
Tout à fait.
Ok. Oui. Alors effectivement, ça demande une très 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 belle complicité, une très belle cohésion d'équipe. Hein.
Ouais, parce que du coup, on connaît un peu les atouts de chaque personne. On sait que tel joueur va être plutôt fort à telle vitesse ou telle vitesse. Donc après aussi, ça c'est à mettre en place quand on compose son équipe. S'il joue plutôt premier, deuxième, troisième ou quatrième en fait.
Ouais. Et la pierre fait combien de kilos ?
Une vingtaine de kilos.
Ah oui, vingtaine de kilos. Mmh. Donc ça nécessite... pas seulement le côté technique, il y a aussi un côté physique.
Ouais, alors après, on la porte pas, la pierre en soi. Hein. On la pousse, hein, donc déjà, c'est beaucoup plus simple. Et donc du coup, c'est de l'effort fractionné, parce qu'on balaye, on arrête de balayer, on rebalaye. Une fois qu'on a balayé, c'est à son tour de lancer, donc du coup... faut que je puisse me concentrer sur ma vitesse alors que je viens de balayer. J'ai le cœur qui bat à 200 à l'heure. C'est, C'est tout ça qui est intéressant. Et à côté de ça aussi, il y a tout l'aspect stratégique. Oui, parce que du coup, ce n'est pas juste physique. Faut savoir que du coup, on anticipe les coups à l'avance par rapport à ce que fait l'adversaire. Donc du coup, il y a toute une stratégie à mettre en place au cours du jeu.
Et vous en parlez entre vous et vous devez être, j'allais dire, sur la même vision des choses, quoi.
Ouais, on se concerte au début, pendant la partie, du coup, quand on fait un match, du coup, c'est en 8 manches, 8 ou 10 manches. Du coup, souvent, il y a une entracte au milieu, donc on a le temps, si jamais on est un petit peu à la bourre en termes de score, on peut un peu changer notre stratégie, du coup, on se concerte et puis voilà.
Ouais. Vous êtes souvent d'accord ?
Il vaut mieux, ouais. C'est pour ça qu'il y a un capitaine, du coup, c'est lui qui a le dernier mot.
Et alors, donc, c'est tout âge mélangé et c'est mix.
Oui, alors en compétition internationale, donc tu as des équipes hommes et des équipes femmes.
Oui.
Après, nous, quand on fait des tournois interclubs, là, ça peut être mélangé, tout à fait.
Oui,
mais au niveau mondial, du coup, tu regardes au JO ou aux championnats mondiaux, c'est compétition 4 hommes, 4 femmes, ou quand c'est mixte, c'est en double.
Oui. Et les équipes ne changent pas. C'est-à-dire, si elles s'engagent sur une saison, elles partent sur une saison, quoi. Elles vont pas dire, en fonction des compétitions, on va changer.
Alors, en compétition officielle ou internationale, tout à fait. Ils partent à 5, comme ça, ils ont un remplaçant. Et nous, quand on fait des tournois interclub, non, on peut se permettre, c'est pas évident que tout le monde soit disponible sur les week-ends et tout, parce que ça demande quand même du temps, du coup, pour partir, s'entraîner en plus les semaines et partir tout le week-end, du coup. Parce que malheureusement, les tournois, on doit se déplacer. Vu qu'on est le seul club en Île-de-France, on n'a pas de tournoi en Île-de-France, à part le nôtre, une fois par an. Et si on va faire d'autres tournois, on doit aller se déplacer partout en France et voir aussi à l'étranger, dans les pays frontaliers.
Alors, vous l'avez dit, donc, 2 séances d'entraînement, le mercredi puis le vendredi. Les compétitions...
Ouais, le samedi matin.
Oui, samedi matin, pardon. Et les compétitions, c'est quand, alors, après ?
Après, les compétitions, c'est tout au cours de la saison. Donc, faut
savoir... Il y a un calendrier déjà défini.
Oui, tout à fait, début de saison. Après, ça revient, c'est toujours les mêmes dates tous les ans. Mais faut savoir que les compétitions commencent... à partir de septembre, généralement jusqu'à fin mai. Parce que les patinoires sont fermées l'été.
Bah oui.
On sait pourquoi, évidemment. C'est compliqué de maintenir une patinoire en glace l'été, sauf celle de Sergi. Je crois qu'il reste pour des questions d'entraînement d'équipe.
Oui,
de hockey.
Et aussi à côté de, pas très loin de Melun, ça va me revenir le nom de la ville.
Peut-être. Ouais. Mais ouais, nous, la patinoire de Viry, par exemple, je sais qu'elle ferme juin, juillet, août. Elle ouvre que
toutes les patinoires ferment,
Donc dès septembre, il y a déjà des tournois qui commencent. Par exemple, là, je sais que dans 2 semaines, il y a le tournoi de Chamonix déjà.
Donc vous partez là-bas ?
Alors non, nous, on n'y va pas cette année. Non. Moi, mon prochain tournoi, ça va être Saint-Gervais.
D'accord.
Saint-Gervais-les-Bains, du coup, ça sera fin novembre.
Alors, c'est sûr que c'est un des avantages. C'est un des problèmes de votre sport. Il faut vous déplacer, donc ça coûte cher, ça coûte de l'argent. Vous déplacez avec vos propres véhicules, vous avez un petit bus, non ?
Ça dépend.
Vous faites du covoiturage ?
Alors des fois on arrive à se débrouiller, la ville nous prête un camion, des fois on a un minibus.
À Viry, un peu moyen quand même.
Bon, il n'est pas toujours dispo le minibus, en fait il y a des minibus, mais vous partagez avec tous les assos de la ville, donc quand on n'en a pas, on se débrouille, c'est notre voiture, on part à 4, ça divise les frais, c'est à nous de débrouiller pour trouver de l'hébergement, les repas, donc c'est un petit coup quand même à chaque fois.
Ça vous fait combien de compétitions par an à peu près ? Combien de déplacements par an ? Et où ? Parce que bon, il y a tous ces pays de la montagne, mais vous allez peut-être dans le Doubs, vous allez peut-être dans le Jura, vous allez peut-être même parfois à l'étranger.
On essaye de se répartir pour que tous les gens du club qui veulent faire des tournois, ça tourne un petit peu, que ce ne soit pas toujours les mêmes. En équipe, par exemple, une équipe qui fait depuis quelques années la Ligue, il y a une Ligue belge, du coup, donc on va jouer en Belgique, à Zemst, au nord de Bruxelles. Ça c'est généralement 4-5 fois dans l'année, dans la saison. Après il y a des tournois qu'on fait régulièrement, Besançon, là Saint-Julien, on va dans les Alpes, du coup un peu Marseille aussi, on aime bien aller, tournoi de Marseille, Valence aussi, tournoi de Valence, c'est bien. D'accord. Et puis à l'étranger on essaye de se faire un petit tournoi généralement en Suisse aussi, il y a pas mal de tournois en Suisse, tournoi un peu en Allemagne ou en Italie aussi, dans les pays frontaliers.
Donc ça fait un sacré budget quand même pour un club, parce que bon, il y a le déplacement, mais il y a l'hébergement, il y a tout le reste.
Ouais, puis bon, alors le club nous aide un peu aussi, comme on fait d'initiation, ça fait un peu rentrer d'argent dans les caisses du club. Du coup, ça permet d'aider et de payer les inscriptions au club, et il nous reste quand même les trajets, l'hébergement.
Bon, l'avantage, c'est qu'on voyage, on voit un peu de pays quand même.
Ouais, on voit.
On
si on se prend un jour au plus du week-end, on peut se faire une petite balade. L'année dernière, on avait fait ça, on était allé à Bienne, en Allemagne, et on était resté une journée de plus pour visiter la ville et les alentours.
Donc ça c'est vous, ce sont vos tournois, mais il n'y a pas de participation à des championnats.
Alors en championnat, il y a les championnats de France qui sont qui sont ouverts aux équipes de toute la France, en l'occurrence. Mm-hmm. Donc, la fois que j'y ai participé avec mon équipe, c'était il y a 2 ans. On avait fait les championnats de France. On avait fini 4e, du coup, sur une douzaine d'équipes. Mm-hmm. Mais là, du coup, on n'a pas renouvelé l'expérience, du coup, les saisons d'après.
Oui, bien sûr. Donc, ça, et puis, vous faites aussi des journées portes ouvertes. Et puis, j'ai lu, vous prépariez aussi les entreprises peuvent venir faire des séminaires.
Ouais, tout au long de la saison, on fait des initiations pour les personnes qui viennent tester. Donc. Et puis après, donc, on fait des pour les entreprises, beaucoup dans le cadre de séminaires entreprises.
Oui.
Généralement, on limite parce qu'on n'a pas non plus une capacité à prendre trop de personnes. Donc pour 30, 40 personnes maximum, voilà, on fait venir les entreprises. Après, c'est un équilibre à trouver parce que bon, faut qu'on puisse quand même s'entraîner nous, sans que ça nous prenne trop de temps. Et puis, il faut savoir que les gens qui font ça, on est tous bénévoles au club, donc c'est un certain investissement. Donc, voilà.
Et les écoles, elles viennent, les collèges, les lycées, les écoles, dans le cadre de leur cours de gym, elles peuvent peut-être s'initier.
Il y a eu des tentations, mais c'est compliqué parce que forcément, les écoles, eux, ils peuvent venir qu'en journée, donc il faut que la patinoire puisse avoir des créneaux de disponibles, et il faut que des personnes du club soient disponibles pour gérer ces initiations en journée, sachant qu'il y a toujours un prof de sport avec, mais...
Et puis, s'il y a aussi des soirées anniversaires, non ? Si Vanessa veut aller faire son anniversaire là-bas, elle peut s'initier au curling.
Si votre anniversaire tombe un mercredi, ouais, pourquoi pas ?
Il faudra que je regarde le calendrier l'année prochaine.
Non, mais ça fait rentrer des. Il n'y a pas ces points. Non, mais ça se fait dans certains sports, comme futsal, comme.
C'est compliqué, parce que du coup, on est. Déjà, sur un entraînement, tout le monde n'est pas forcément là. Donc, si en plus, il y a des 4-5 personnes qui veulent s'entraîner et qui sont obligées de faire une initiation pour l'anniversaire, le but non plus, ça reste un sport loisir. Il faut que les personnes qui viennent faire du curling puissent en faire, en profiter, sans forcément que ce soit un frein de faire l'initiation.
Et vos couleurs de maillot, c'est quoi ? Vert ?
Nous, c'est les couleurs de la ville. Donc, c'est vert. Il y a du vert, du blanc et du jaune.
Oui, c'est ça. Donc, c'est vert. Et ceux qui sont dans le club, il y a des anciens et des anciennes qui sont là depuis longtemps quand même. L'état d'esprit de votre club.
Il y en a qui sont là depuis très très longtemps. Le président Yannick, lui, il est, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
Ah, il est au téléphone,
Depuis une vingtaine d'années. Il a commencé, il était tout jeune dans le club.
Et l'avantage, c'est justement, on peut mixer tous les âges, quoi.
On a des gens qui arrivent qui ont la vingtaine, et puis on joue aussi avec des personnes qui ont 60 ans.
Et les jeunes qui viennent comme ça par curiosité, la plupart s'en vont ou ils arrivent à continuer à pratiquer ce sport parce que c'est une difficulté, hein.
Alors, les jeunes qu'on a, c'est les enfants des autres membres du club, donc forcément, ils sont un peu plus sollicités pour rester.
Alors, il y a le côté, on le disait, mental, mais il y a le côté physique aussi. C'est un sport où vous faites une préparation particulière. Physiquement, vous faites un peu de footing, un peu de vélo.
Complètement. Ouais. Avant d'aller sur la glace, généralement, on s'échauffe un peu toutes les articulations du corps, pour ne pas arriver à froid, évidemment. Et puis à côté, on peut aussi chez soi courir un peu. Ça permet de gagner un peu en endurance. Oui, c'est recommandé.
Oui, parce que vous l'avez dit, c'est quand même...
C'est du cardio.
Oui, c'est du cardio incessant. Et puis la stratégie, ça représente combien ? 30% ?
Beaucoup plus.
50, la moitié ?
Oui, c'est 50-50 parce que sans bonne stratégie, on peut justement pas forcément avoir moins de... être moins sportif et avoir une meilleure stratégie, je pense qu'on peut gagner un match même en ayant une bonne stratégie parce que la différence par exemple de la pétanque où on joue en fonction du score, là on joue chacun son tour, donc il y aura forcément à un moment une équipe qui aura la dernière pierre. Donc avoir la dernière pierre, du coup, ça a un impact très important sur le résultat final. Donc du coup, ça met en place toute une stratégie en amont quand on sait qu'on a la dernière pierre.
Donc ça veut dire, si je comprends bien, c'est des matchs qui peuvent durer très longtemps. Au départ, on fait un match, on ne sait pas combien de temps il va durer.
Si, parce qu'il y a un nombre d'illimité. Généralement, c'est 8 quand on est en tournoi.
Il ne peut pas y avoir d'égalité ?
Il y a égalité, il y a extra. On fait un extra N, donc on fait un 9e manche en plus ou une 10e manche en plus. Mais voilà, ça va de 2h à 2h30 un match.
C'est ça, quand même. 2h à 2h30, vous l'avez dit, avec un petit break quand même.
Et quand on fait un tournoi, donc c'est 5 matchs sur un week-end. Donc généralement, fin de week-end, on est lessivé. Ouais.
Et la pierre, elle va à combien quand vous la lancez ?
Alors là, je peux pas vous dire, j'ai jamais mesuré la vitesse de la pierre. Elle fait généralement, la piste fait 40 mètres, la pierre, elle met entre
40 mètres.
Ouais, et la pierre met entre 15 et 20 secondes pour faire la piste, donc voilà.
Et le public, alors comment il est ? Quand il vient vous voir dans vos tournois,
ouais, est...
bon, vous allez bien, il n'y a peut-être pas
ouais,
beaucoup.
Il n'est pas
aussi.
Très nombreux le public.
Ouais.
Donc, non, non, qu'on a du public, bah, c'est quand on organise nous notre tournoi.
Oui.
Par
oui.
exemple, là, on fait la Very Cup, donc fin dernier week-end de mars, on a notre
D'accord.
tournoi à domicile. Où on
D'accord.
a plein d'équipes qui viennent de France, mmh. pays frontaliers. Et on a un peu de public parce qu'on fait la promo sur le moment. Donc,
oui,
on a des amis ou de la famille qui
ouais.
viennent.
C'est l'événement de l'année pour vous. C'est l'événement,
ouais, ouais, c'est l'événement oui. de l'année, tout à fait. Ouais, ouais.
Mmh.
Et on prépare aussi pour 2025, il y a une grosse compétition internationale qui s'appelle Margarita.
Oui.
Et là, du coup, il y a 40 équipes qui viennent de tout le monde. Et là, mmh. tous les ans, en fait, c'est une année sur le continent européen, une année sur le continent américain. Et donc, cette année, c'était à Collingwood. Et mmh. l'année prochaine, en 2025, ce sera à Viry,
ah bien,
en France.
Ah bien,
voilà.
D'accord, 2025.
Ouais, ouais, là, c'est un gros événement donc,
ouais,
qui demande
bah,
beaucoup, beaucoup de préparation.
On va en parler. Hein
ah ouais, pas de souci.
Voilà. Et justement, le public, alors, il est obligé d'être passionné quand il vient dans des compétitions comme ça ou on demande au contraire le silence?
Non, non, on peut crier, il n'y a pas de
et
souci.
Et est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on se transcende ou est-ce qu'on arrive à faire le vide?
Ben, il faut parce qu'en plus, si vous regardez un match de curling, on n'est pas les seuls à jouer, on joue
oui, oui.
Avec, à côté d'autres équipes sur les pistes. Donc, pour s'entendre, pour quand le par exemple, le capitaine dit à ses balayeurs de balayer, on crie « oui, 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 fort, fort !» Donc du coup, sur la piste d'à côté, si on veut s'entendre, il faut crier plus fort que la piste d'à côté. Donc non, non, ça crie très fort sur les pistes de curling.
Ouais. Et puis je suppose qu'il y a un peu d'intox entre vous, entre les équipes.
C'est-à-dire
bah, quand on rentre sur la patinoire, on essaie de montrer qu'il n'y a plus de cohésion,
ah, non,
qu'on n'a pas peur.
Non, non,
non, il n'y a pas
alors,
d'intox.
Le curling, justement, c'est
ouais.
un sport qui reste très fair-play.
Oui.
Comme le fair play, c'est la règle numéro un du curling. Hein.
D'accord.
Il
n'y
a
bah,
pas
tant
de
mieux.
Coup bas.
Tant mieux.
Vous regardez en fait des compétitions officielles,
mmh.
Des arbitres qui sont sur
oui.
les touches, les bords de terrain.
Il n'y a pas de problème d'arbitrage.
N'interviennent quasiment jamais,
D'accord.
juste pour mesurer des pierres en cas d'égalité. Mais le moindre souci se règle capitaine entre capitaine en fait.
Ah, justement, c'était ma question oui. sur l'arbitrage. C'est des arbitres officiels donc, qui sont
ah,
formés
ouais.
par la fédération, etc.
Oui, ouais, pour les championnats de France par exemple, on a, si je ne dis pas de bêtises... deux ou trois arbitres officiels en France qui ont été formés et du coup qui sont là pour voilà pour quand il y a des litiges en cas d'égalité ou
il y a des sanctions qui peuvent comme par exemple le foot un carton jaune carton rouge des choses comme ça ou
non 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 généralement
non.
Si vraiment
jamais
il y a un souci il y a un rappel à l'ordre et après okay. c'est bon il y a plus de souci quoi
mm-hmm.
non non il y a franchement c'est il y a pas de hooligan il hein, y a pas de
ouais,
y a pas
ouais,
de souci
ouais.
et vous êtes quatre par équipe c'est ça ou cinq
quatre
quatre, okay.
quatre. Il y a un cinquième qui est
un
remplaçant qui reste en backup
dire,
au cas
donc...
où. Ouais,
tiens, ça,
okay.
C'est intéressant. Est-ce qu'on l'utilise souvent? Est-ce que le coaching,
voilà.
ça existe aussi?
Bah, oui, oui il y a un coach. Bah, du coup, par exemple, toutes les équipes ont un coach. Et du coup, par exemple, quand on fait pendant un match, on a le droit de faire un time-out. Si jamais on a un doute sur un point clé important du match, on a une minute de time-out et on peut, dans ce cas-là, faire intervenir le coach qui peut venir nous pister un peu sur des choses qu'on n'aurait pas vues pendant le match sur ce time-out.
Mmh. Alors, pourquoi l'équipe de France n'y arrive pas aux Jeux Olympiques?
Alors, l'équipe de France, actuellement, c'est l'équipe de Megève,
oui.
Qui, elle, va jouer d'ailleurs au mois de novembre au championnat d'Europe groupe B.
Mmh.
Parce qu'il y a trois groupes pour le championnat d'Europe, groupe A, groupe B, groupe C. Mais oui, qui s'arrête malheureusement en groupe B parce que, bah, pareil, hein, je pense peut-être manque de temps pour s'entraîner, de moyens pour s'entraîner. C'est des jeunes qui rentrent dans la vie active, donc pareil.
Oui. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en vivre, ils ne peuvent pas faire que ce sport, ils ne peuvent pas en vivre. Quoi.
Non, 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 pas,
non.
Non,
non, non.
C'est très compliqué. En France, déjà, au ouais. niveau mondial, il y a
oui.
très, très peu d'équipes hein, qui en vivent. Il y a vraiment les 3-4 équipes du top 3 mondial qui peuvent en vivre, les Canadiens, les Suédois, les Suisses, les Italiens, voilà.
Ouais.
Sinon, toutes les autres équipes, ça reste un sport qu'ils pratiquent à côté de leur travail, quoi.
Et c'est de partenaires privés qui les paient, non?
Ben oui, je sais. Les Suisses, par exemple, je sais qu'elles fonctionnent. Alors, soit ça peut être des militaires, souvent,
oui.
Font militaire 6 mois dans l'année, et à côté de ça, qui ont 6 mois pour travailler. Ou alors, ils ont un emploi du temps, un job qui leur permet, pareil, de bosser, on va dire, les mois d'été où ils ne s'entraînent pas. Donc, sur la période mai, juin, juillet, août, septembre. Et puis, dès que la saison sportive reprend, ils peuvent se consacrer à plein temps au curling à ce moment-là.
Mmh. Et les carrières, elles sont longues
Alors, au curling, ouais, ouais. Parce que vous, par exemple, vous prenez la joueuse canadienne Jennifer Jones, qui est, si je ne dis pas de bêtises, qui a passé la quarantaine, pareil. Il y a Brad Gouchou, qui est parmi le meilleur joueur canadien, pareil. Il doit se rapprocher de la cinquantaine aussi, je crois. Donc jusqu'à on est en senior de 21 ans jusqu'à 50 ans voilà au curling.
Mm-hmm.
Au-delà de 50, on passe en vétéran.
Oui. Vanessa, c'est sûr que les pays qui pratiquent le patinage, les sports de glace, fatalement, ils sont attirés par le curling. Hein. On parlait du Canada, de la Suède, de la Suisse, fatalement.
Oui, voilà, c'est des pays qui sont plus des pays de sports de glace. Donc forcément, ils ont aussi des infrastructures et peut-être aussi la politique sportive qui l'accompagne. Donc, assez logiquement, voilà. C'est... Mais pour la Suisse, je ne savais pas. Ouais. Je m'étais imaginé un peu plus les Pays-Bas. Mais voilà. Mm-hmm. Mais, c'est intéressant. Mais c'est vrai qu'en Suisse, il y a une très grosse activité de sport de glace.
Ouais. Et il y a des Coupes du Monde, des Championnats d'Europe
Alors oui, au mois de novembre, donc à Lodja, en Finlande. C'est en Finlande.
Oui. Moi, c'est un pays de glace et de neige.
Il y a donc les championnats d'Europe, groupe A, groupe B. Donc, il y a la France qui va jouer en groupe B. Il y a plus tard dans l'année, au mois d'avril, mars et avril, il y a les mondiaux hommes et femmes. Mm-hmm. Et il y a aussi, là, bientôt, je crois qu'il y a les compétitions pan-continentales, donc là, qui regroupent Asie et Amérique.
Alors naturellement, l'idéal ce serait un jour qu'on puisse obtenir dans des Jeux Olympiques une médaille pour le curling français. Il y aurait quand même fatalement un peu plus de retombées pour votre sport.
Oui, en 2030 qu'il y aura les JO d'hiver dans les Alpes, du coup, il y aura une équipe de France forcément vu que c'est un
curling. Où pays Marseille ou Nice, non?
Ce sera Nice pour le curling, voilà. Tout à fait.
Nice,
Nice pour le curling. Oui, donc vous en attendez beaucoup de ces JO d'hiver. Ça va être... Bon, il y avait eu Albertville. Hein, nous, les anciens, on a connu Albertville aussi en 92.
Et Albertville, le curling était en démonstration.
Oui, le curling n'était encore pas rentré
officiellement. Qu'aux Olympiades d'après que le curling rentre officiellement aux JO. Ouais, tout à fait. Mmh.
Et pour le processus de qualification pour les Jeux, par exemple, qu'est-ce qu'il faut atteindre comme...
C'est le niveau mondial,
en fait.
En fait, c'est donc la World Curling Federation qui établit les règles. Et il faut rentrer, si je ne dis pas de bêtises, dans le top 10 monde. Et après, c'est des points en fonction des années. Ça fait plus ou moins de points, ils font une moyenne. Et du coup, ce qui permet d'avoir la sélection aux Jeux Olympiques, en fait.
Ah oui. Voilà. Et ça veut dire qu'on peut ne pas avoir d'équipe de France?
En 2030...
Si, on sera qualifié d'office, mais sur d'autres Olympiades.
Non, pour l'instant, il n'y a pas l'équipe de France, parce que du coup, il faudrait qu'on passe groupe A, donc le premier groupe d'Europe.
C'est ce que j'allais vous demander,
groupe A. Tout à fait. Et dans ce cas-là, il pourrait passer donc aux Mondiaux, et là, il pourrait commencer à accumuler des points pour aller aux JO, tout à fait.
Mm-hmm. Et donc, au niveau français, donc, les clubs les plus importants, ce sont tous les clubs des Alpes, hein, on parlait justement du Jura ou du Doubs, par exemple.
Oui, alors il faut savoir qu'on est à peu près une vingtaine de clubs en France de curling.
Oui.
Métropole, et on a aussi un club à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Ah bon?
Qui est, je crois, le club où il y a le plus de licenciés, si je dis pas de bêtises.
Il fait pas très chaud.
Ils sont à côté de nos copains canadiens, donc c'est pour ça, donc ils marchent bien là-bas. Sinon, il y a une grosse concentration dans les Alpes, hein, avec Chamonix, Albertville, Megève, Saint-Gervais. Et les Contamines, Et puis un peu dans le sud, donc Nice, Marseille, Valence, Lyon. Après, dans l'Est, il y a Mulhouse, Colmar maintenant, Besançon donc aussi, bon club.
Ouais. Tout partout, il y a fatalement des patinoires. Quoi.
Metz, un nouveau club récemment. Charleville-Mézières, un petit club aussi qui marche bien. Dans le Nord, pour l'instant, il n'y a pas de club. Il y a eu des volontés de faire des clubs dans le Nord, mais bon, pour l'instant, ils n'ont pas trouvé de candidats. Rouen, Louviers, club.
Il y a une bonne équipe de hockey, donc fatalement, il y a des patinoires.
Petit nouveau aussi, un club à Niort, voilà.
À Niort?
Depuis l'année dernière, on les a vus, ils sont passés à la Very Cup, à notre compétition, donc on était contents de les avoir. Sinon, par contre, c'est vrai qu'il n'y a pas de club sur toute la côte ouest, par Niort, toute la sud, Bordeaux, en dessous, Bretagne, rien du tout.
Est-ce que, par exemple, une démonstration au Téléthon, ça pourrait être une bonne chose pour vous? Des initiations, par exemple, pour la FM, et puis voilà. Mais
nous,
c'est
on a des systèmes de.
Il y a des sports qui le font.
De pistes mobiles, en fait. On vient avec des plaques, et du coup, on a des fausses pierres avec des billes en dessous. Donc, complètement. Ouais. On a déjà fait ça dans des intérieurs où il y a des parquets. Ouais. Voilà. Il faut juste qu'il y ait un sol bien plat.
Et la taille, le poids, c'est important.
La taille de
La taille de l'individu, du pratiquant, de la pratiquante, ou le poids, où il y a un archétype, voire n'importe qui, on peut faire 50 ou 90 kilos, c'est pas...
Non, c'est pas un frein.
On n'est pas interdit de sport. Non,
pas de souci, du moment qu'on est stable et souple pour glisser, pour balayer, il n'y a pas de souci.
Très bien, écoutez, merci hein, Cédric, j'avais promis de vous lâcher pour 40. On va écouter une pause musicale, je vous ai demandé le disque, parlez-en.
Je vais vous passer laquelle?
La première, c'est celle que vous m'aviez dit. La première.
Ouais. Alors si c'est la première, c'est Erwan, chanson curling de Erwan. C'est drôle. Donc Erwan, qui était un des chanteurs de Java, qui nous avait contacté il y a quelques années quand il a sorti son album. D'accord. Et il dit oui, je fais une chanson qui s'appelle Curling et du coup j'aimerais tourner le clip chez vous du coup. Donc il est venu et du coup on a servi de décor et de doublure pour tourner le clip.
C'est pour vous et c'est pour votre venue. Erwan. Allez, merci.
T'épouse la street, la tête dans le win. T'as fait du self-control, ton way of living, pour rassurer toujours le petit nanoeil qui cligne. T'es curling, t'es curling. T'es pas baba, t'es pas bobo, mais t'es pas contre un petit bibi. Toujours brut de pomme, mais tu sais être smoothie. Tu bouscules à peine l'air, mais t'irradies et dandy. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont des crises. Elles glissent nues sur la banquise et balaient la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balisent. Toi, tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling. Tu doubles fil au Ritz. Descend, grand seigneur, balance nonchalamment les clés au chasseur et lui tapote la joue avec un petit ton farceur. T'es curling, t'es curling. Ça pince-fesse, ça gratine, mais toi tu coulisses. La vie est une faillite que tu croques à pleine tisse. Petit pas de danse quand tu traverses la piste. T'es curling, t'es curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elle glisse nue sur la banquise et balaye la matière grise comme au curling. Tu crouses sur la corniche pour admirer la mer. Le soleil t'aveugle et c'est pas pour te déplaire. Belle journée pour s'éclipser et faire du curling, du curling. Dans ton monde, les femmes sont exquises. Elles glissent nues sur la banquise et balayent la matière grise comme au curling. Dans ton monde, on s'est lâché prise. C'est les autres pour toi qui balise. Toi tu glisses à l'aise sur la patine comme au curling.
Voilà, eh ben écoutez, merci. Est-ce que vous irez au Salon de l'Auto, le mondial de l'automobile?
Si j'ai le temps, je vais essayer d'y aller carrément, ça m'intéresse.
D'accord, eh ben, c'est très bien parce qu'on sait que les sportifs en général aiment les belles voitures et que ça va être une immense fête. On va essayer de prolonger d'ailleurs la fête olympique et paralympique. C'est ce que nous a dit donc le directeur du mondial de l'automobile, Serge Gachot, que nous sommes allés interviewer donc, cette semaine dans ses locaux à Paris. Donc le directeur du mondial de l'automobile. Monsieur Gachot, merci en tout cas de nous recevoir donc dans vos locaux pour évoquer eh bien le 90e mondial de l'automobile qui aura lieu donc du 14 octobre au 20 octobre. Alors question simple, comment se présente cette 90e édition?
Alors effectivement, c'est la 90e édition, 126e année, hein, ça a commencé en 1898. L'édition se présente bien. On a une cinquantaine de marques automobiles confirmées qui viennent. De nombreux pays, les pays plutôt de l'automobile, hein, donc France, Italie, Allemagne, États-Unis, Corée, Chine, Japon, Suisse, Angleterre et Turquie. Mmh. Voilà, donc le mondial porte bien son nom. Voilà, avec toutes ces marques. Et on veut organiser une vraie fête de l'automobile. On aime la voiture. Les Français aiment la voiture. Voilà. Et Paris est une fête, hein, a été une fête cet été avec les JO paralympiques. Et nous, on veut prolonger cette fête. Voilà. Et c'est important aussi pour notre industrie, hein, qu'on se serre les coudes. Cette édition, voilà, en Europe, il n'y a plus que deux grands rendez-vous automobiles internationaux annuels. Il y a le Mondial de l'Auto au mois d'octobre, les années paires, et le Salon de Munich au mois de septembre, les années impaires. C'est un peu comme en Chine, hein, entre Pékin et Shanghai, voilà, une année sur deux.
Alors, on peut considérer que c'est le plus grand rendez-vous mondial, hein, de l'automobile. Hein.
Oui, c'est vrai, c'est le plus grand. Alors, on a largement dans le passé dépassé le million de visiteurs, mais c'était sur deux semaines avec deux week-ends. Là, pour des raisons, enfin, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est vrai qu'avec les JO paralympiques qui viennent de se terminer, il y a aussi certains salons B2B qui étaient à Villepinte qui veulent maintenant être à la porte de Versailles. Donc, on a une semaine avec un week-end. Mais c'est vrai qu'on vise à peu près 500 000 visiteurs. Donc, si on était deux fois plus long comme... il y a quelques années, on serait dans les mêmes ordres de grandeur. Et ça doit être un des plus grands au monde. Et en France, le plus grand avec le Salon de l'agriculture. Oui, oui, en termes de nombre de visiteurs. Mais automobile, oui, oui. Un des plus grands au monde, sans aucun doute. Oui.
Alors, vous parliez que les gens aiment l'automobile. Vous pensez que le regard des gens est encore aussi fort pour l'automobile?
Oh ben, les jeunes s'y intéressent un petit peu moins quand même, parce que... Bon, ça dépend un peu de... Parce qu'il ne faut pas essentialiser. Ça dépend un peu d'où vous habitez, etc. C'est sûr que quand on est en ville... Enfin, moi-même, j'aime beaucoup la voiture, mais je me déplace uniquement en vélo électrique dans Paris. Donc, oui, il y a des jeunes qui ont d'autres priorités, qui passent le permis plus tard, etc. Et puis, à un moment, dans la vie des uns et des autres, bon, ça devient important pour des bonnes raisons d'avoir une voiture. Mais il y a... à peu près, je crois, 86% des Français qu'en ont besoin au quotidien, voilà, pour leur vie de famille, pour travailler. Enfin, tout le monde n'habite pas au-dessus d'une station de métro, de RER ou de tram ou de train. Voilà, donc c'est l'usage, et c'est très, très important pour les gens, et c'est la vraie, vraie liberté de mouvement.
Est-ce que le regard n'a pas un peu changé avec tous les problèmes d'environnement dont on nous parle? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne voit pas un petit peu la chose différemment?
Oui, et puis l'automobile est un peu pointée du doigt quand même. Voilà. Bon, parfois, c'est un peu par des Khmers verts quand même. Mais il faut dire que c'est une industrie très vertueuse. Enfin, vous vous souvenez, quand on est arrivé à moins de 10 litres au 100 de consommation d'essence, là, on est depuis des années à moins de 5 litres. On a pris un virage, je dirais, très fort vers l'électrification. Donc, quand je dis électrification, c'est voitures hybrides, hybrides rechargeables, mais aussi 100% électrique à batterie. Ça avance vite. C'est quand même... voilà. Donc, c'est une industrie qui est... Enfin, on n'est pas en train d'ouvrir des centrales à charbon ici ou là, hein, parce que le CO2 ne s'arrête pas à la frontière des pays. Et donc, moi, je pense que l'industrie a énormément progressé. Il ne faut pas se cacher sous la table. Nous, on a gardé le nom du mondial de l'auto, d'un salon de l'auto. Non, non, mais on fait une fête de l'automobile, de l'automobilité, mais pas de toutes les mobilités plus douces, de vélo électrique, trottinette, etc. Et on est fiers. Et je pense qu'on peut être fiers de cette industrie. Ce n'est pas facile en ce moment, mais c'était important de fédérer voilà, toutes ces marques automobiles. Pour certaines, c'est un vrai forum, une opportunité de prise de parole, pas seulement pour les nouveautés produits, mais pour des informations plus ou des débats plus corporates et politiques.
Oui, après... Justement, il va y avoir de multiples démonstrations, de multiples conférences. On peut un petit peu en parler?
Oui. Alors, bon, traditionnellement, donc le lundi 14 octobre, la première journée, c'est la journée presse. Donc là, vous avez toutes les conférences de presse des uns et des autres. C'est un quart d'heure chacun. Les journalistes courent. On attend à peu près... on anticipe entre 4 et 5 000 journalistes accrédités. C'est quand même énorme.
Ça vient du monde entier. Hein.
Oui, oui, du monde entier, exactement. Surtout que là, avec des marques automobiles de, qui viennent de tous les des continents, enfin, sauf l'Océanie, il n'y a pas de constructeurs là-bas. Mais voilà. Donc, conférence de presse toute la journée de lundi. Il y en a à peu près 35. Donc, ça va être vous, vos collègues vont courir à droite à gauche. Alors, le planning est sur notre plateforme digitale. Vous pouvez sélectionner. Donc ça, c'est toute la journée. On aura sans doute à confirmer la visite du président de la République. Hein. Il était venu la dernière fois. Il est resté plus de 5 heures pendant la journée presse. Il était avec 5 ministres. Bon, là, les ministres viennent d'être nommés. On va voir qui vient avec lui. Donc ça, c'est le lundi, avec une soirée ensuite sur les stands des uns et des autres. Nous, on va prendre notre part aussi dans l'événementialisation et pour je dirais, animer cette soirée. Alors ensuite, le mardi matin, il y a un sommet organisé par la PFA. La PFA, c'est la plateforme automobile et mobilité française qui est présidée par Luc Châtel. C'est la filière industrie. Donc ça, c'est le mardi matin. Alors là, on aura quelques keynotes de CEO de l'automobile qui viennent donner leur vision de l'automobile du futur, des challenges, des enjeux, comment ils appréhendent tout ça. Donc il y aura... Alors, on peut pas, tout le monde ne peut pas venir parler. On donne un peu la priorité à nos constructeurs français, historiquement français. Donc il y aura Luca De Meo, le patron du groupe Renault, Carlos Tavares, le directeur général de Stellantis. Et puis on aura Oliver Zipse, le CEO monde de BMW. Et comme Tesla vient... J'essaye de faire venir, enfin, au moins en visio, comme il l'avait fait pour Vivatech cette année, Elon Musk, pour parler de la conduite autonome et d'où ils en sont. Mais je n'ai pas eu de réponse, donc voilà. Ça peut être une bonne surprise, mais pas sûr.
Alors, il y aura ça, puis ensuite, il y aura des ateliers.
Alors, ensuite, il y a des conférences, effectivement. Donc là, on est, je dirais, on arrive mardi à 13h, donc le 15 octobre. L'après-midi, il y aura des conférences plutôt B2B, donc mardi après-midi, mercredi matin, mercredi après-midi, et ensuite jeudi, vendredi, des conférences B2C. Ce qui est très important, comme je l'ai mentionné, hein, on a pris le virage de l'électrique, même si voilà, les ventes de voitures, c'est, bon, c'est quand on arrête le bonus, c'est un peu compliqué là, parce que ça aide. Mais en tout cas, le virage électrique est pris, mais pour les gens se posent beaucoup de questions. Donc il faut aussi que ces conférences... Mais il y a aussi beaucoup d'exposants, notamment l'AVER, hein, qui aura deux stands où on peut répondre vraiment à toutes les questions que les gens se posent, hein, sur la voiture électrique, comment ça marche, c'est quoi le temps de recharge, l'autonomie, enfin, les coûts. Parce qu'il y a aussi un des aspects très importants de ce salon, c'est vraiment d'expliquer, d'être pédagogique, mais aussi l'accessibilité. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à, je dirais, faire cette transformation écologique, cette transition, si les classes moyennes, moyennes inférieures, si tout le monde n'a pas accès. Or, aujourd'hui, c'est quand même plus cher à taille équivalente, mais les prix baissent, les recharges sont plus rapides, l'autonomie plutôt plus importante. Il y a beaucoup de progrès dans le domaine des batteries. Mais voilà, l'accessibilité, c'est important. On est de moins en moins propriétaires, de plus en plus utilisateurs. Donc il y a plein de services d'automobilité, il y a plein de formules comme par exemple l'abonnement, hein, voilà, où vous avez des besoins, donc le car sharing, etc. Donc tout ça, on aura beaucoup d'exposants aussi qui sont parties prenantes et qui répondent à pas mal de problématiques, parce qu'effectivement, pour beaucoup, et notamment des jeunes, ça a moins de sens d'être propriétaire et de voilà, on utilise quand on a besoin. Il y a des formules intéressantes et qui facilitent cette transition.
Alors, tout ça, ce côté festif aussi. Hein. On veut que ce 90e mondial soit un mondial de fête.
Exactement. Donc là, une cinquantaine de marques, c'est quand même déjà... on a une très, très forte représentativité de l'industrie, hein, notamment du marché français. Donc ça, c'est chouette parce que comme ça, les uns et les autres peuvent aller voir. Alors, et puis en plus, c'est bien pour les constructeurs automobiles qui sont en prise directe avec le client final. Hein, c'est bien. Et donc, il y aura vraiment toute l'offre des marques automobiles, notamment françaises. Voilà. Et les gens pourront aussi, non seulement poser toutes les questions, etc., bien se renseigner, s'asseoir dedans, mais aussi essayer les voitures. On aura un centre d'essai, alors avec une dizaine de marques. Pas, toutes ne participent pas, mais ça, c'est bien. On peut essayer, voilà, parce qu'il faut... c'est pas quelque chose qu'on achète comme ça ou qu'on Bon, comme je l'ai dit, il y a des formules d'abonnement, il y a aussi des formules de différentes formes de location, de leasing, etc. Mais voilà, c'est important quand même de pouvoir vraiment appréhender, se rendre compte du silence. Hein, c'est appréciable en ville. Moi, je suis allé récemment en Chine. Et effectivement, c'est quand même ça change beaucoup. Hein, j'avais été il y a longtemps. C'est important, mais il n'y aura pas que des voitures électriques à essayer. On n'est pas sectaire.
Alors, on va remonter aussi le patrimoine de l'automobile hein, à travers plusieurs expositions.
Voilà. Alors, il y a effectivement les marques automobiles. Et l'ADN du mondial de l'auto, c'est l'innovation et la passion. Donc, innovation, alors ça, c'est les voitures qui sont lancées ou qui viennent d'être lancées, ou l'offre, en tout cas, disponible. Et puis, il faut aussi faire rêver les gens, montrer de belles voitures. Alors, le petit problème, c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs de ces marques très prestigieuses, d'hypercars, de supercars, ça fait une quinzaine d'années qu'ils ne vont plus dans les grands salons automobiles traditionnels, internationaux. Donc, il y a d'autres forums où ils font des événements très exclusifs, très privatisés avec une sélection de prospects. Ce qu'on essaie de faire, si le constructeur ne vient pas, on essaie de... Je prends l'exemple de Bentley, par exemple. Si le constructeur ne vient pas, à ce moment-là, on essaye avec le distributeur local, donc le concessionnaire en Île-de-France. Et puis, si ça ne marche toujours pas, on demande à des collectionneurs s'ils veulent bien ou des propriétaires de prêter des voitures. Donc, effectivement, on aura des très, très belles voitures, des bonnes surprises. Je peux vous en parler, d'ailleurs. Hein. Il y a des différentes expositions. On aura des voitures vraiment... on aura une animation, une exposition qu'on a appelée Pop Culture. Donc ça, c'est un best-of de 25 voitures iconiques de cinéma et de série. Donc
ça, c'est culte, ça.
Ça, c'est vraiment culte. Et puis, c'est la plus belle collection en Europe. C'est la collection de Franck Galliègue. Et donc, on aura la Batmobile.
C'est tout jeune, ça.
Voilà, ouais. La Ford Gran Torino de Starsky Hutch, la Peugeot 406 de Taxi, la Ferrari de Magnum, la Pontiac Firebird Kit, là, K2000, l'Aston Martin de James Bond, et puis la DeLorean de Retour vers le futur. Bon, je vous en cite quelques-unes, mais il y en aura d'autres aussi.
Donc, ça fait vraiment rêver. Hein.
Ouais. Oui, ça fait vraiment rêver, c'est assez incroyable. Ensuite, on a une exposition. Alors là, c'est plus... sur votre vie, la mienne, celle de nos parents, de nos enfants bientôt. C'est une exposition qui célèbre les grandes innovations automobiles à travers 20 voitures emblématiques du début du mondial de l'auto à nos jours. Donc voilà, les nouvelles façons de voyager, de travailler, de vivre. Le patrimoine automobile. Donc là, c'est pas forcément des voitures super iconiques, mais des voitures qui ont marqué un peu, qui ont eu un vrai impact en termes d'innovation et puis sur notre quotidien, qui ont été un vrai progrès. Donc par exemple, la 2 chevaux, la DS.
Je vais vous le dire, la vieille 4L, la vieille DS, la 2 chevaux,
la Prius,
la Coccinelle.
Dont le design n'était pas extraordinaire, mais la génération 1, donc la première voiture hybride qui est arrivée en Europe en 2000. Voilà, donc c'est une autre exposition qui s'appelle « On n'arrête pas le progrès » avec donc le best-of de ces 90 éditions, 126 années. Puis on aura aussi une Dream Zone avec des voitures incroyables, des Bentley, des Aston Martin, notamment la gamme qui est en vente actuellement. Hein. Donc là, on est passé par, ça revient à ce que je disais, on est passé par le concessionnaire, le distributeur local, des Morgan aussi, ça vous connaissez, ouais, Morgan. On aura aussi une McLaren Senna, une Ferrari Roma Spider, l'Alpine de Pikes Peak, là c'est une course de côte aux États-Unis, je crois qu'il n'y en a qu'un seul exemplaire dans le monde, une Audi R8 aussi du groupe 4, enfin voilà, donc des très belles voitures. Et puis on a aussi une exposition Matra, avec tous les véhicules iconiques de cette marque française, quand même, à la fois de voitures de tourisme et aussi sportives.
Qui a gagné les 24 heures du Mans.
Voitures de course magnifiques, exactement. Exactement. Et il y aura aussi l'espace F1, par exemple, qui sera là aussi. Et puis, alors, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, pour la partie pédagogique, on a aussi une animation, un espace qui est la fabrique de l'électrique. Donc là, c'est pour tout savoir sur le... Alors, non pas du berceau à la tombe, mais sur la fabrication des voitures électriques, des composants, donc des minerais utilisés jusqu'à la fabrication, voilà, les matériaux nécessaires pour produire les batteries, etc. Ça, c'est assez pédagogique et c'est un partenariat entre les acteurs, notamment sur le territoire français, comme ACC, donc, que vous connaissez, qui est une usine de fabrication de batteries. Donc, c'est une joint venture entre Total Energy, Stellantis et Mercedes. Il y aura Eramet, ST Microelectronics, Forvia, OP Mobility, qui est le nouveau nom de Plasticomium, et puis les deux constructeurs français. Voilà, donc ça, c'est assez pédagogique avec des explications, voilà, la réponse aux questions. Centre d'essai, j'en ai déjà parlé.
Et puis, initiation karting, j'ai vu aussi.
Oui, alors il y aura un circuit de karting électrique. D'ailleurs, moi j'en avais fait aussi. Oui, oui, très sympa. Donc karting électrique à l'intérieur d'un hall. Voilà, donc ça va être sympa. La dernière fois, ça n'a pas désempli du matin au soir. Ouais, ouais. Même si c'est payant. Voilà. Et puis on aura des nocturnes. Alors il y a la nocturne, bon c'est pas forcément pour vos auditeurs, mais de la journée presse, VIP, influenceurs, journalistes, etc. Donc ça c'est le lundi. Mais ensuite il y aura une nocturne, on ferme à 8h tous les soirs, et il y aura une nocturne le vendredi soir et une le samedi soir.
Voilà. Alors est-ce qu'il y aura des grands noms qui vont venir? Parce qu'on parlait des Jeux Olympiques justement et Paralympiques, il pourrait y avoir des grands noms du sport qui viennent parrainer une journée comme ça ou une soirée.
Alors la dernière fois, mais ça ne sera pas le cas, il y avait une voiture qui était à vendre aux enchères pour une bonne cause, pour l'Institut Imagine, et Thierry Riner est le parrain de cet institut, donc il était venu et resté quelques heures. D'ailleurs, il s'y connaît beaucoup, parce que c'est moi qui lui avais fait visiter le salon, et il s'y connaît beaucoup en voiture, notamment en voiture de sport. Donc là, bon, il ne sera pas là cette fois, mais on peut, oui, on y travaille, on aimerait bien faire...
Dans le prolongement, quoi.
Oui, on veut être dans le prolongement, on veut que Paris continue d'être une fête, c'est très important. D'ailleurs, c'est assez merveilleux qu'en France, on ait eu là depuis le printemps, donc on a eu Roland-Garros, le Tour de France, JO Paralympique, il y a nous après, mais c'est vrai que dans notre écosystème, ce serait quand même très triste s'il n'y avait plus, par exemple, voilà, les 24 heures du Mans et le Mondial de l'Auto. Voilà, c'est quand même pas rien, les deux sont mondialement connus. Voilà, donc il faut continuer de se battre. Et comme je disais, on aime la voiture et on veut pas, malgré tout ce qu'on peut entendre, parce qu'on tape un peu sur le... Enfin, je veux dire, pour les automobilistes, là, à Paris, c'est pas non plus très simple. Hein, c'est pour ça que moi, je suis à vélo. Et donc, mais on veut éviter tous ensemble. Je veux dire que la voiture soit perçue comme une commodité, et voilà, parce que c'est pas le cas. Et comme je le disais au début, c'est la vraie liberté de mouvement quand même.
Oui, puis ça évolue. C'est comme les avions aujourd'hui qui sont beaucoup moins polluants, quoi.
Beaucoup moins, beaucoup moins. Oui, oui. J'ai pas parlé d'hydrogène, mais ça aussi, c'est une des formes d'électrification.
Alors, avec toute une équipe, combien vous allez être pour cette équipe pour travailler donc sur ce mondial? Oui, parce que je suppose que c'est un travail qui est immense, énorme.
On sort d'une réunion aujourd'hui où alors il y a une quinzaine de têtes nouvelles qui arrivent à chaque fois, là, toutes les trois semaines en ce moment, parce qu'on a besoin de vraiment beaucoup, beaucoup de renforts. Enfin, accueillir plus de 500 000 visiteurs, c'est pas rien, c'est beaucoup d'organisation. Donc, je dirais, en temps normal, on est une dizaine. Et puis là, on dépasse largement la cinquantaine. Et puis, ce sera plus...
Vous avez des CDD le temps de ce mondial?
Oui, ce qu'on appelle des freelances, en fait. Qui, voilà, mais on a essayé le plus possible de reprendre les mêmes qui ont travaillé sur le projet il y a 2 ans. Mais bon, là, c'est plus grand. On a plus de, on a une fois et demie plus de hall, hein, quand même. Je n'ai pas mentionné, mais ça, c'est important. Plus d'espace, on a 70 000 m² de hall et 15 000 m² à l'extérieur. Et puis, il y a beaucoup d'entre eux travaillent. Ben là, on est dans les locaux d'Hopscotch, qui est une agence notamment d'événementiel, mais de communication, RP, marketing digital. En fait, voilà, beaucoup de freelance travaillent sur d'autres projets pour Hopscotch, et beaucoup sont des employés d'Hopscotch qui sont détachés le temps de ce projet, enfin, ou en tout cas à temps partiel, tout en faisant d'autres choses à côté, leur vrai job, voilà, et qui viennent renforcer l'équipe. Donc là, c'est bien parce qu'on a eu une édition il y a 2 ans et on a aussi des têtes nouvelles. Mais voilà, on essaye quand même de continuer avec les...
Ça va, vous dormez bien, tout va bien quand on prépare comme ça.
Oui, là, je suis souriant.
C'est le compte à rebours.
Non. Alors mieux qu'il y a deux ans, parce qu'il y a deux ans, c'était pas facile. C'était pas facile. On sortait du Covid, on avait dû annuler l'édition 2020. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait une grève de la RATP, de la SNCF. Il y avait surtout une pénurie de carburant. Les gens faisaient la queue. Il y avait pas de. Enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc d'ailleurs, c'est marrant parce que si on regarde à peu près les 10-15 dernières éditions, il y avait à peu près 40% de visiteurs de, je dirais, Paris au sens très large, hein, Île-de-France, et 60% de province. Et là, ça s'est inversé sûrement du fait des problèmes de pénurie de carburant et de grève. Bon, donc, voilà, bon, on a... Mais en tout cas, oui, c'est on pense vraiment, en tout cas, qu'on aura un très, très bel événement. Et pour répondre à votre question, je dors mieux qu'il y a deux ans, parce qu'il y a deux ans, on a fait ce qu'on a pu. On avait une vingtaine de marques. Et là, on en a une cinquantaine. C'est quand même pas pareil. Des gens étaient surpris qu'il y ait autant de Chinois. Mais si vous voulez, d'ailleurs, notre concept la dernière fois, c'était le nouveau monde automobile. Parce qu'il y avait... Mais ça, c'est une conséquence directe de... Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais de décisions politiques, en fait. Quand on a décidé d'aller vers la solution unique électrique 100% à batterie à partir de 2035, bon, les Chinois avaient à peu près 15 ans d'avance. Les fournisseurs de batteries, il y en a 4 très importants dans le monde. Ils sont... tous les quatre asiatiques, dont deux chinois, donc ils avaient de l'avance. Il y a des surcapacités de production en Chine. Le marché, c'est pas aussi naturel et libre que ça, parce que certains constructeurs sont soutenus par des pouvoirs publics, en fait. Donc il y a des surcapacités, et l'Europe, qui a légiféré comme ça, finalement, ben, c'est un terrain très intéressant pour eux. Mais on avait à peu près une dizaine de marques sur 20 au total, donc on était à 50%. Là, on en a une dizaine sur une cinquantaine, donc on est plutôt à 20%. Et c'est bien comme ça. Mais je dors mieux parce que... voilà, on est beaucoup plus serein. Les médias sont très favorables. Tout le monde a un peu la pêche. Les marques automobiles sont ravies de venir, de faire la fête. Ils organisent eux-mêmes pas mal d'événements sur leurs stands, sur leurs espaces. Il y a une vraie passion. Moi, je suis ravi de voir ça et d'être la vitrine de ça, même si c'est une industrie un petit peu difficile. Donc, il peut toujours se passer quelque chose, une catastrophe, mais je pense pas. En tout cas, oui, je dors bien. Bon, après, j'ai plutôt tendance à bien dormir en général, donc je suis pas...
Allez, faites rêver nos auditeurs. Quelle sera la voiture la plus chère qu'ils pourront voir en exposition? Est-ce qu'on connaît le prix d'une voiture qui sera la plus chère?
Je pense qu'il y aura une Matra qui sera pas loin de... Oui, mais c'est vrai que... Oui, il y aura des voitures à quelques millions d'euros, mais même d'une marque française qui s'appelle Delage, que vous avez peut-être connue, qui est en train d'être relancée complètement par Laurent Tapie et avec quelques autres investisseurs. Et de l'âge, c'est des voitures. Alors, je n'ai pas regardé juste avant l'interview, mais la D12, là, leur modèle phare, qui est un peu une... C'est une voiture pour aller sur circuit. C'est des voitures à 2,6 millions, 2,7 millions. Voilà. Qui sera à vendre, hein, si ça intéresse vos auditeurs.
Oui, parce qu'il faut le dire, c'est aussi, on peut aussi commander une voiture au salon. Hein.
Bien sûr. Ah oui, alors, ça fait partie du retour sur investissement. Hein, donc, vous êtes une marque automobile. Il y a des éléments tangibles, des éléments intangibles. Donc, tangible, c'est l'impact média. Donc, c'est vraiment la quantité d'interviews, d'articles, toute l'activation digitale, mais de la partie média, hein, pas, voilà, donc qu'on peut mesurer en fonction de la quantité et de la tonalité, hein, tonalité positive, neutre, négative. On mesure ça en équivalent publicitaire. Donc ça, c'est une partie du ROI très importante. Et certains de nos exposants, il y a deux ans, ont eu, juste pour cette partie-là, hors digital, un retour sur investissement, oui, de plus de l'investissement total du stand, des personnes qui managent, qui faisaient vivre le stand, etc. Et puis l'autre partie, c'est ce que vous dites, c'est la partie business, donc c'est les ventes de voitures, mais aussi les leads plus ou moins qualifiés. Le centre d'essai, c'est très important parce que si vous qualifiez qui monte dans la voiture, les gens ont déjà payé le billet pour le mondial de l'auto. On qualifie avec les marques automobiles qui peut faire un essai. Et en général, les chiffres sont assez éloquents. C'est-à-dire que l'année dernière, il y a eu plus de 3000 essais. Il y avait 48% d'intentionnistes à moins d'un an, hein, donc qui prévoient d'acheter dans les 12 mois. Donc les gens ne sont pas là par hasard. Alors que si vous faites du tour de manège comme ça, oui, vous aurez beaucoup de monde, mais pas forcément qualifié. Donc ça, c'est très important pour nos exposants. Et puis, il y a tous les éléments intangibles, motiver les troupes. les réseaux de distribution, les clients, voilà, c'est aussi respectueux vis-à-vis des clients d'être là, d'être présent. Enfin, je veux dire, voilà, il y a tout un... Alors ça, c'est des plus dur à mesurer, d'un point de vue purement de ramener ça en euros, mais il y a beaucoup d'éléments à la fois tangibles et intangibles qui font que c'est pas nous qui nous sommes mis à plat ventre à donner de l'argent à tout le monde pour venir. On n'a pas de subvention d'aide publique. C'est les constructeurs. On a essayé de travailler sur une proposition de valeur qui était intéressante pour les marques automobiles et qu'on fait qu'elles avaient envie de venir. Voilà, Tesla n'était pas venu depuis longtemps. Ils viennent, par exemple. Voilà.
Donc, on va rappeler 14 octobre, 20 octobre.
Exactement. Alors, essayez de venir quand même plutôt la semaine, si, parce que le week-end, c'est... C'est là. Alors là, on a beaucoup plus de place que la dernière fois, mais on avait dû refuser quelques personnes. Donc, dans la mesure du possible, voilà, dès le mardi matin, 15 octobre.
Et puis, les prix sont sur le site internet.
Bien sûr, la plateforme, oui, mondial.paris. Oui.
Merci beaucoup, en tout cas. Puis, rendez-vous le 14.
Oui, merci à vous.
Voilà, le rendez-vous est pris. Et je sais qu'Alexandre, il ira faire un tour. Et puis, mon Paris FM sera naturellement durant toute cette semaine au salon du Mondial de l'Automobile. Alexandre, avant de faire le point foot, le traditionnel journal des sports, on te retrouve.
Absolument Philippe, on commence ce journal des sports avec le rugby et la deuxième victoire de la saison pour le Stade français 29-20 contre Montpellier. Le Racing 92 remporte son match 27-24 contre le RC Vannes. Au classement, Bordeaux-Bègles premier avec 18 points, le Stade Rochelet deuxième également avec 18 points, Castres, Toulon et le Stade toulousain se suivent avec 15 points et le Racing 92 est dixième avec 10 points. Le Stade français 11e avec 9 points et le RC Vannes ferme la marche.
Ouais, ça va pas très bien pour le Stade français.
Ça va pas très, très bien.
Ils ont remonté de deux places.
Ouais, notre ami Julien Combe qui était avec nous sur le mondial l'année dernière de rugby, c'est un petit peu plus compliqué.
Ah, seulement deux victoires. Hein.
Voilà, mais on va croiser les doigts, ça devrait s'arranger après.
Ils sont séparés de leur coach aussi également.
Absolument. Oui. Comme on le disait tout à l'heure, le Paris Basket se rassure après la défaite en Euroleague 80-77 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et les coéquipiers de Ward ont gagné 84-75 contre La Rochelle, à l'inverse de Nanterre 92 qui perd son match 86-61 contre Bourg-en-Bresse. Les Nanterrois sont 10e, le Paris Basket 5e et Cholet est leader devant Lyon-Villeurbanne et Saint-Quentin. Cholet qui, on le rappelle, a un match de retard et affrontera Dijon. Malgré ça, ils sont quand même leaders. En handball, on toujours un zéro pointé pour Ivry, c'est très compliqué. 5 matchs, 5 défaites. Et la dernière ce week-end contre le Paris Saint-Germain, justement, 39-25. Créteil aussi perd à Toulouse 37-30. Au classement, le PSG est leader à égalité de points avec Toulouse 10 points. Créteil est 12e avec 2 points et Ivry est bon dernier avec donc 0 points. A noter chez les femmes la belle victoire du Paris 92 37-27 contre Toulon. Les Parisiennes sont 3e à égalité de points avec Nice leader. En volleyball maintenant, et le Plessis Robinson qui perd son match du week-end 3-0 contre Saint-Nazaire. Ce résultat place le club des Hauts-de-Seine dernier du classement. Paris qui n'a pas joué ce week-end pointe à la 7e place. Les Parisiens joueront contre Montpellier ce vendredi. Chez les femmes, le Valois Perret continue sur sa bonne lancée en s'imposant contre France Avenir 3-0. Le club est 2e du classement avec 5 points, juste derrière Marc Amberol, 6 points. Ça me permet en même temps de faire une petite passerelle pour Vanessa parce qu'on sait que son podcast de volley assis va pas tarder à arriver sur mon Paris FM.
Merci Alexandre.
En moto, Francesco Bagnaia remporte le Grand Prix du Japon. L'Italien suivi par Jorge Martin et Marc Marquez s'impose en 42 minutes et 9 secondes. Il permet à Ducati de creuser l'écart au classement des constructeurs avec 695 points. Donc sans trop de surprise, Ducati devrait sans doute remporter ce championnat. Au classement des pilotes, il est deuxième avec 382 points. Il revient seulement à 10 longueurs de l'Espagnol Jorge Martin. Côté français, déception sur déception, puisque Johan Zarco finit 11e et Fabio Quartararo 12e, ce dernier qui est 13e au classement des pilotes. Puis en cyclisme, la victoire de Christophe Laporte au Paris Tour dans la Gadoue, succès important pour lui après une année 2024 assez compliquée. Renard finit 5e et Turgis clôture le top 10. En hippisme, Philippe, le 103e prix de l'Arc de Triomphe a été remporté par l'Irlandais Rosa Ryan et Blue Stocking.
Oui, ça c'était le cheval, ouais.
Oui, bien sûr, c'est sa jument qui a devancé le français Stéphane Pasquier et son cheval Aventure. Ça me permet de vous donner la combinaison de quintet, justement.
Et oui, et oui.
7, 16, 14, 13, 5, c'était les numéros qu'il fallait jouer ce week-end pour
gagner.
Gagner
un peu d'argent. Voilà,
voilà c'est ça. Ouais. Et on finit ce journal des sports avec le futsal.
Oui.
Hier se déroulaient les finales de la Coupe du Monde et après la défaite 3-2 contre les Argentins en demi-finale, les Français se sont fait pulvériser vraiment par les Ukrainiens 7-1 lors du match pour la 3e place. L'Argentine qui s'est inclinée justement face au Brésil 2-1 en finale de la compétition. 12 ans après, les Oriverdés retrouvent le goût de la victoire.
Bon, bah, on va commencer avec le point foot, avec notre ami Alexandre qui va continuer. Alexandre, cette semaine de Coupe d'Europe, donc du bon et du moins bon pour nos clubs. On va quand même rappeler que Brest poursuit l'aventure. Brest a battu Strasbourg 4-0. Dans le même temps, donc, Lille a fait l'exploit de battre le Real Madrid 1-0. Nul pour Monaco et le Dynamo de Zagreb 2-2. Les Monégasques ont souffert, mais enfin, ils ont pu quand même redresser la situation en fin de compte. Et puis Arsenal qui bat donc le Paris Saint-Germain 2-0. Paris qui a complètement raté son match.
Absolument, et on sait que il faut vraiment pas minimiser ce que font les Brestois, parce que c'est vraiment extraordinaire d'aller de gagner contre Salzbourg, en plus là-bas, dans une grosse ambiance. Idem pour Lille, qui gagne 1-0 à domicile face au grand Real Madrid. Les Galachtis, je vois la une de Vanessa de l'équipe. Le Paris Saint-Germain qui s'est incliné contre 2-0 contre Arsenal, un match compliqué pour les Parisiens qui ne sont visiblement pas prêts pour l'Europe. Et Monaco qui fait deux partout, qui arrache le nul à la toute dernière minute contre Zagreb. Ouais. Mmh. Donc franchement, les clubs français sont très très bien lancés.
Au niveau de la Ligue Europa, la Lazio de Rome qui bat Nice 4-1 est dans le même, par contre, dans le même résultat, mais cette fois-ci en sens inverse, Lyon qui s'impose aux Rangers face aux Glasgow Rangers 4-1.
Ouais, gros début de saison de nos clubs français, comme je le disais, et puis l'Olympique Lyonnais qui vient gagner aux Rangers sur un très très bon, très très beau but, notamment d'Alexandre Lacazette, et une très grosse performance de Ryan Cherki et également de Malik Fofana, qui ont tous deux répondu présents. Donc c'est une très bonne chose pour les Lyonnais. Et ouais, comme vous le disiez, Philippe, le Nice qui s'incline lourdement contre la Lazio.
Ouais. Alors je voulais quand même rappeler les positions des équipes, hein, parce qu'en Ligue des Champions, Brest pour l'instant est deuxième avec 6 points, Monaco est donc à 4 points, et puis donc 14e, et Lille et le PSG sont 18e avec 3 points. Voilà. Et par contre, en Ligue Europa, Lyon est deuxième avec 6 points, juste derrière la Lazio de Rome, par contre Nice 30e avec seulement un petit point.
Ouais, pour Nice c'est compliqué, alors que pour Lyon, quand on voit les prochains adversaires de Lyon, donc le Beşiktaş à domicile, ça devrait normalement le faire pour les Lyonnais, et Hoffenheim à l'extérieur, donc on espère quand même une qualification directe pour les Lyonnais, alors que Nice, c'est ça, hein, c'est quand même assez paradoxal, parce que Nice fait quand même une plutôt bonne saison en Ligue 1, et en Europe a un peu de mal, donc 30e pour les Niçois.
Alors, en tout cas, chapeau pour Brest quand même, hein, qui, quoi qu'il arrive par la suite, aura quand même rempli son contrat avec 2 victoires. À l'inverse, Lille, ça fait partie des bonnes surprises qu'on peut rencontrer en foot, hein, avec 7 victoires face au Real.
Absolument, les Brestois, c'est extraordinaire ce que réalise Éric Roy.
Quoi qu'il arrive, contrat
c'est fabuleux. Ouais. C'est fabuleux, le contrat est rempli, comme vous l'avez dit. Franchement, rien à dire, on ne peut rien leur reprocher, les Brestois. Et puis les Lillois, qui ont le droit de rêver. Un programme pas facile pour les Lillois, mais quand on prend des points contre le Real Madrid, on se dit que le plus dur est passé, donc on a le droit de rêver pour nos clubs français cette année.
Et le PSG, par contre, pas terrible.
Non, le PSG, c'est pas terrible.
Battu collectivement.
Ils sont pas prêts. Ouais. Battu collectivement, même s'ils tapent une fois le poteau, une fois la barre, c'est quand même. On avait vraiment l'impression qu'Arsenal jouait sans trop de pression, sans forcer. Donc Paris, c'est un petit peu compliqué cette année. Pour accrocher le top 8, ça va être un peu léger.
Et Ligue Europa, donc on parle de Nice, Lyon, c'est bien, ils sont dans leur...
Voilà, donc comme je disais, Lyon qui sont deuxième à égalité de points avec la Lazio et qui affronteront donc le Beşiktaş qui, eux, sont derniers au classement.
Ouais. Vanessa, tu voulais rajouter
quelque
chose ?
Oui, moi j'ai un peu vu le match de Lille et j'ai vu le but et l'ambiance de dingue qu'il y avait.
Énorme performance.
Je regardais ça avec mon frère et mon neveu, c'était super... Super bien.
Ah bah oui, c'est sûr. Hein.
C'est gros très gros match. Hein.
Oui, battre le Real, ça restera à jamais dans l'histoire du club.
Et surtout Lucas Chevalier aussi.
Grand gardien.
Excellent.
Ouais. Ah oui, ça...
Allez, en championnat, c'était la 7e journée. Alors, y a des équipes qui ont perdu un peu de points, comme Marseille, tenu en échec par Angers 1-1. Lille a battu Toulouse 2-1, donc les Lillois ont vraiment vécu une belle semaine. Victoire de Saint-Etienne devant Serre 3-1. Rennes s'enfonce un peu plus dans la crise. Les Rennais battus à domicile par Monaco 1-2. Hein. Monaco qui est vraiment l'équipe de ce début de saison. Lyon qui bat Nantes 2-0. Victoire de Reims dans un match avec des buts, hein, qui bat Montpellier 4-2. Strasbourg et Lens nul 2 partout. Brest qui confirme encore ses belles semaines en battant le Havre 2-0. Et puis nul entre Nice et le PSG. Donc je l'ai dit, pour l'instant, l'équipe de ce début de saison après 7 journées, c'est Monaco en tête avec 19 points. Devant le PSG, deuxième 17. Troisième, Marseille et Lens, 14 points. Cinquième, Lille, 13 points. Et puis en bas de tableau, bah, on voit déjà les équipes qui sont montées, qui ont quelques difficultés. Auxerre, 14e avec Le Havre, avec 14 points. Et 16e, Toulouse, 5 points. 17e, Montpellier, 4 points. Et 18e, Angers, donc une des équipes qui était montée, bonne dernière, avec donc 3 points.
On s'est enflammé sur Marseille, Philippe, au début de l'année.
Hein. Là, ils ont perdu
Forcé de constater que perdre 2 points contre Angers à domicile, c'est une forte contre-performance. Surtout, on sait le contenu du match avec le carton rouge de Mopé qui est absolument inutile. Mais quelques réserves quand même sur les Olympiens parce qu'ils n'ont pas de latéraux. Il y a quand même des manques à certains postes. C'est quand même assez compliqué. Et grosse performance de Nice qui tient le nul contre le Paris Saint-Germain.
C'est un mauvais résultat pour le PSG ? Le nul à Nice.
Un mauvais résultat compte tenu de...
C'est quand même un nul à l'extérieur.
Bon. Ouais, compte tenu du début de saison de Paris, c'est pas forcément un mauvais résultat.
C'est surtout la prestation qui a été très mauvaise.
La prestation qui est moyenne et la sensation que le Paris Saint-Germain stagne un peu depuis ces dernières semaines. Tandis que Lyon continue sur sa bonne lancée en Ligue 1, qui bat Nantes 2-0 à domicile tranquillement. Grosse performance aussi des Brestois parce que d'enchaîner un match de Coupe d'Europe avec toute l'intensité que ça demande de gagner contre Le Havre, c'est quand même une bonne performance.
Et je voulais dire quand même pour le match entre Nice et PSG, Nice a quand même 48 heures de récupération en moins quand même. Hein. Ils ont joué jeudi, Paris a joué mardi en Coupe d'Europe.
48 heures en moins, c'est ça que ça fait d'avoir des individualités qui tiennent le coup. Quand on voit par exemple Jérémy Boga qui fait un très bon match, Ndombele aussi qui continue sur sa très bonne lancée. Donc les Niçois, franchement, en Ligue 1 en tout cas, c'est plus que prometteur. Et puis Monaco, comme vous l'avez dit.
C'est l'équipe de ce début de saison.
L'équipe de ce début de saison avec leurs deux joueurs déliés, notamment Ben Seguir qui est très très bon. Donc les Monégasques peuvent croire au titre finalement.
Oui, et puis attention quand même pour Montpellier qui frôle la correctionnelle. Hein.
Montpellier, ça fait depuis quelques saisons que ça baisse.
Attention à eux.
Alors qu'auparavant ça jouait les 6-5e places, maintenant fait des années que ça joue le bas du classement, donc il faut faire attention.
Ça pourrait être malheureusement l'année de trop pour eux. Hein.
Surtout qu'on voit que Saint-Etienne a gagné son match contre Auxerre 3-1, donc il faut faire attention pour Montpellier.
Allez, Ligue 2, c'était la 8e journée, donc tout va toujours bien pour le Paris FC, vainqueur devant Laval 1-0. À l'inverse, ça va moins bien pour le Restart, battu Annecy 1-0. Dans les autres faits marquants de cette 8e journée, il y a la victoire de Lorient à Caen 2-1, de Dunkerque contre 3-2-1, de Clermont devant Guingamp 4-1, puis d'un match très spectaculaire qui a vu la victoire de Metz devant Amiens 3-2. Pour l'instant, le Paris FC est en tête 18 points, devant Lorient, Dunkerque 16 points, deuxième à égalité, quatrième Metz et Annecy 15 points. Clermont est 13e avec 8 points, juste devant donc le Restart 14e et Caen avec 7 points, et sont en bas de tableau, donc 16e Rodez 6 points, 17e Martigues 5 points et 18e 3, 4 points.
Quel plaisir Lille, Quel plaisir pour une fois, le Paris FC, on a le droit de rêver, j'ai envie de dire, pour la montée en Ligue 1, qui continue sa bonne lancée après la victoire contre le Red Star la semaine dernière dans le fameux derby 3-1. Là, ils continuent leur bonne lancée, gagner 1-0, c'est toujours bon contre Laval, alors que le Red Star, ça semble être compliqué quand même pour le Red Star. On se dirige plutôt vers un maintien, une lutte pour le maintien pour le Red Star.
Et puis 3, je le dis chaque semaine, c'est quand même incroyable cette équipe qui descend en Ligue 2 et qui est en train de se battre actuellement pour justement y rester. C'est incroyable.
Ouais, c'est ça, 3 qui continue sa descente aux enfers. Ouais. Ça fait partie de ces clubs comme ça qui étaient en Ligue 1 depuis quelques temps et qui perdent tout. Comme Bordeaux, Bordeaux c'est différent, mais sportivement parlant, ça allait très mal et donc c'est à peu près la même chose pour 3.
Allez, en national, donc le Paris Atlético qui avait pourtant battu Bourg-la-Reine la semaine dernière 3-0, eh bien à nouveau rechute, battu à domicile par Quevilly Rouen 1-0, dans le même temps nul entre Rouen et Versailles, l'autre club de Rouen et Versailles 0-0, ce qui fait que pour l'instant, eh bien Nancy et Concarneau sont en tête avec 15 points, Versailles, eh bien il est 10e avec Bourg-Péronnat, Le Mans et Rouen 8 points, et le Paris Atlético se rebat pour essayer de se maintenir, 15e avec Châteauroux 6 points, mais attention, un match en moins pour les Berrichons, et 17e donc Villefranche-Beaujolais 5 points, mais eux aussi un match en moins.
Absolument, le Paris 13 Atlético qui fait un début de saison plutôt compliqué.
Ouais.
Une victoire seulement sur les 8 premiers matchs. Tout comme Versailles finalement, une victoire sur les 8 premiers matchs. Donc ça va être compliqué pour nos clubs franciliens cette année. On espère le maintien, c'est toujours bon de se maintenir dans ce genre de division. Mais on n'espère pas plus.
J'espère qu'ils ne vont pas faire régulièrement l'ascenseur. Allez, un petit mot sur les féminines. C'était la troisième journée. Là, pas trop de surprises. Paris Saint-Germain a écrasé le Havre 3-0. Victoire de Saint-Etienne devant le Paris FC 1-0. Des filles de Fleury qui sont allées gagner à Strasbourg 2-0. Et puis Lyon qui a cartonné devant Montpellier 4-0. Donc, trois équipes en tête. Lyon, Paris Saint-Germain, Saint-Etienne avec 9 points. Le quatrième, c'est le Paris FC Nantes 6 points. Et Fleury-Mérogis, donc qui est quatrième sur 12 équipes. C'est du classique.
C'est du classique, mais la contre-performance, c'est quand même le Paris FC qui perd contre Montpellier. Oui. Au moins, accrocher le nul, ça aurait été plutôt bon. Lyon qui continue sa surdomination, tout comme le Paris Saint-Germain. Donc, on aura droit sans doute à, comme vous l'avez dit, une configuration plutôt classique avec les trois équipes Lyon, Paris Saint-Germain, Paris FC qui vont sans doute se battre pour le titre.
Voilà. Merci Alexandre. Et puis, on s'excuse encore pour ne pas pu avoir Stéphane pour ce point foot. On l'aura peut-être la semaine prochaine. On va rentrer dans une semaine internationale. Et donc, il y a un match important. Israël-France jeudi.
Israël-France et
lundi
puis
prochain, Belgique-France. Hein.
Absolument. Ouais. Ça va être un peu un rassemblement international qui va être un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ne viennent pas, qui préfèrent rester dans leur club, à l'image de Romelu Lukaku ou même Kevin De Bruyne qui ne sont même pas venus pour la Belgique, ou bien évidemment Kylian Mbappé qui est resté à Madrid.
Ça défraie la chronique, ça.
Ça défraie la chronique et à juste titre, j'ai envie de dire, parce que l'équipe de France doit être placée au-dessus du club. Mais de toute façon, on en parlera.
Alors justement, il y a tellement de matchs que ça va être un des thèmes de l'émission au bout du foot.
On en parlera.
On va passer le témoin maintenant, emmené par notre ami Eladj, à laquelle tu vas participer.
Absolument. Donc on se retrouve là dans 5 minutes avec Eladj, Maxence et Léo. On va pouvoir parler et débriefer de tous ces matchs et de tous ces sujets passionnants.
Compléter donc ce point foot avec donc cette semaine de Coupe d'Europe et puis cette journée de championnat. Merci, sinon toi on te retrouve la semaine prochaine pour le journal
Toujours fidèle au poste la semaine prochaine.
Ouais. Avec grand plaisir.
Et puis Vanessa, on te retrouve aussi la semaine prochaine. Tu sais de quoi on va parler la semaine prochaine?
Oui, tout à fait.
Oui.
Tu nous l'as dit.
Oui, on parlera de trampoline. Hein. Donc, on aura deux jeunes représentants et représentantes de l'INSEP. Et puis, on retrouvera aussi Benoît pour son journal du MMA, son journal mensuel MMA. D'ailleurs, on aura un des responsables qu'on a vu il y a quelques semaines qui viendra nous parler d'un roman qu'il a écrit. Voilà, un responsable de club. Hein. Voilà. Merci en tout cas. Merci à Jason pour avoir été aux manettes pour cette 100e émission. C'était un bel anniversaire.
Merci,
on
Jason.
Finit avec House on Fire. Donc la maison dans le feu ou le feu dans la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine. Belle soirée à toutes et à tous.
Fan.